Bonjour Dominique Marseille.
Bonjour.
Vous êtes la fille de Marcel Arnaud, résistant aux Alpins pendant la Seconde Guerre mondiale. D'abord, pour les auditeurs peut-être qui découvrent qui est Marcel Arnaud, on va rappeler ensemble les dates importantes de la vie de votre père. Il est né en 1911, c'est bien ça ?
Oui, à La Rochelle, où son père était facteur à l'époque.
Son père était facteur là-bas. Alors, c'est quoi un petit peu l'histoire de son enfance ?
L'histoire de son enfance, il est né en 11. Il a une sœur qui est née en 1910, Thérèse. Sa mère est morte l'année suivante. Et son père, il s'est remarié à une femme assez horrible. Et ensuite, le père est parti à la guerre de 14 et il est mort parmi les premiers en 1914.
Donc il se retrouve orphelin.
Il se trouve orphelin avec une femme qui martyrisait les deux enfants, ne leur donnait pas à manger, les battait, les mettait à la cave. Enfin, ça fait assez mélodramatique, mais c'est vrai. Et il avait des grands-tantes qui étaient d'une famille paysanne qui habitait à Gap. Donc les deux grands-tantes sont allées devant les tribunaux et ont enlevé les deux enfants à cette femme qui voulait les conserver pour une pension alimentaire, ou enfin bref, peu importe. Et c'est elles qui se sont chargées de leur éducation. Voilà.
Et l'enfance de Marcel Arnaud va se poursuivre et dans les années 30, il va quand même s'entourer peu à peu d'intellectuels. Votre sœur m'a confié qu'il avait été un temps banquier tout en disant aux paysans de ne pas placer leur argent à la banque.
Exactement. Il avait, lui, voulu rentrer à l'école normale pour être instituteur, mais il était catholique engagé déjà. Et il y avait à cette époque des anticléricaux, des francs-maçons, et donc il n'a pas été accepté. Et effectivement, il a travaillé dans la banque en disant aux gens qu'il fallait pas, en les dissuadant, puisqu'ils ne croyaient pas, non pas à l'usure, mais bon, à ce genre de choses. Voilà, ça c'est vrai.
Il va ensuite construire l'hôtel du Relais, première rue Carnot. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu ?
Ce lieu, ça avait été, il avait un groupe d'amis, j'allais dire, qui partageaient les mêmes idéaux et les mêmes analyses économiques, je dirais. Et ils avaient décidé de faire construire quelque chose qui devait servir comme foyer d'accueil pour des jeunes agriculteurs pendant l'hiver, pour qu'ils puissent gagner leur vie et ouvrir aussi le département, j'allais dire, à des touristes ou à des gens qui venaient pendant l'été. Donc, c'était pour les jeunes apprentis, par exemple, en menuiserie ou en diverses choses, c'était un genre de foyer d'accueil où, selon leurs principes, le cuisinier était payé selon leurs besoins. Mon père a été accusé à un moment donné, accusé. Pas une accusation, mais si à l'époque ça l'était, d'être communiste, parce qu'il avait des vues différentes sur la fraternité. Voilà.
Arrive la guerre en 1939-1940, une drôle de guerre, et puis les Hautes-Alpes se retrouvent en zone libre jusqu'en novembre 1942. Votre père intègre la résistance. Quelles étaient un petit peu ses actions au sein de ce réseau ?
Je ne crois pas qu'il faisait partie d'un réseau. Il avait des liens, il connaissait Mauduit, il connaissait... Est-ce que c'était un réseau ? Je ne crois pas. Mon père, il avait une fonction officielle. Il y a d'ailleurs des papiers qui le disent, ce qui lui facilitait les choses pour faire des fausses cartes. Et il était à ce moment-là lié aux frères Ribou qui avaient une imprimerie où ils ont imprimé les premiers numéros de combat. Où... Voilà. Donc, on ne peut pas parler de réseau, on peut parler de gens qui étaient auparavant unis par des idées, des convictions communes. Ensuite, il s'est engagé dans un autre mouvement de retour à la terre, mais dans les mêmes idéaux, j'allais dire, les mêmes structures. Et avec un groupe, ils ont loué une montagne dans le Bêche, précisément, à Agnel, qui se trouve une vallée assez perdue, desservie par un chemin qui appartenait aux eaux et forêts. Et ils ont loué cet endroit où ils ont cultivé la lavande, ils ont eu, mais ça a servi énormément de cache d'armes. Alors là aussi, en relation avec les résistants du Haut-Bèche. Mais dire que c'était un réseau, je ne sais pas.
Votre père est arrêté en avril 1944. Que s'est-il passé ce jour-là?
Ben, mon père, ce jour-là, était retourné. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que l'hôtel n'a pas fonctionné comme foyer, comme il devait l'être. Donc, il a fonctionné comme un hôtel pendant un an ou deux. Il a été ensuite réquisitionné par les Italiens et ensuite réquisitionné par les Allemands. Le jour de mon anniversaire, bon, je suis née le 3 avril, il a été dénoncé, je pense, par Vallée, comme ça a été écrit dans des journaux et ça a été constaté. Et la Gestapo est venue et l'a arrêté en l'accusant.
Vous étiez là ce jour-là?
Oui. Oui, j'étais sous la table, on me l'a raconté. Parce que moi, il y a vraiment une cassure, j'ai une mémoire d'éléphant, mais là, je ne peux pas vous dire les souvenirs de mon père, je n'en ai pas. Parce que je n'ai pas voulu en avoir, je crois, ou je n'ai pas pu en avoir. En réalité, j'ai des souvenirs de la même époque, du chien ou de la vache qu'il y avait à Niel. De ma sœur, j'en ai pas, elle avait 17 mois de moins que moi, mais je pense que c'est une amnésie de réaction. Donc je me suis, paraît-il, réfugiée sous la table, j'ai pas voulu en sortir. Ils l'ont arrêté, il a été transféré à Demichel, en face, il a été interrogé par la Gestapo, et ensuite il a été envoyé au Baumettes à Marseille. Ma mère, la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était au Baumettes. Moi, le contre-coup, c'est qu'on n'est jamais allé à Marseille. Je n'ai pas de souvenir, il n'était pas là, mais mes grand-tantes qui vivaient avec nous, une des grand-tantes qu'il avait élevée, et d'autres personnes qui étaient là, dont ma mère, gardaient des confitures, gardaient des choses en disant « Eux, on garde parce qu'il va revenir bientôt. »
Votre père est décédé, oui, en Allemagne, c'est ça?
Il est mort le 19 avril en Allemagne. Et là, la seule chose que je puisse vous raconter, mais après coup, parce que moi, ma mère, sur le coup, on lui a dit « votre mari est mort », elle ne l'a pas cru. Mais la nuit où il est mort, et elle n'est pas, c'était une femme qui avait les pieds sur terre, etc. Elle a été réveillée et elle a dit « mon mari a besoin que je pense à lui, que je prie pour lui ». Et on a appris bien plus tard qu'il était mort le 19 avril. Et là, il y a eu des récits, mais pas forcément tout de suite, parce que les gens qui revenaient ne pouvaient pas raconter.
Vous avez une sacrée mémoire quand même pour vous souvenir de tout ça, quand même, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, vous m'en citez plein depuis tout à l'heure, et d'où ça vient, pourquoi?
Ben, y a des éléments racontés, et il y a des éléments, et ceux-là sont mémorisés. Les éléments d'autres, je sais que je faisais des fugues à l'âge de 4 ans et que j'arrivais à la maison en disant « est-ce que maman est là ?» Et si elle n'était pas là, je repartais. Donc, il y a eu un retentissement, mais vous dire que je sais, et j'entendais ma mère sangloter la nuit, mais bon, il y a une chose effectivement qui m'a beaucoup traumatisée. Ma mère avait un tiroir où il y avait les lettres que mon père lui avait écrites et normalement, il y a des choses qu'un enfant ne regarde pas. Bon. Et moi, je devais avoir 5 ans. Un jour, j'ai ouvert ce tiroir. Et là, il y avait une petite pochette. Je l'ai retrouvée l'autre jour. Et là, j'ai regardé les photos. Et c'était une horreur. C'était les photos du camp prises par les Anglais qui l'avaient libéré. C'était des charniers, c'était des choses comme ça. Bon, c'était horrible. Et je disais à mes sœurs, vous n'avez pas le droit d'ouvrir ce tiroir. Donc, je ne l'ai jamais raconté. Mais dans mon vécu à moi, comme on était croyants et que je croyais qu'un jour, il y aurait une résurrection des morts, le soir, à la prière, je disais toujours, faites que la fin du monde arrive vite, parce que je reverrai mon père. Et il y avait une autre chose aussi, parce que les enfants ont de l'imagination, et je me disais, peut-être il n'est pas vraiment mort, parce qu'il y avait des gens qu'on retrouvait des années après. et j'imaginais qu'il revenait et qu'il disait « Ma petite Dominique, tu as tellement changé !» Parce que j'imaginais que ça pouvait être longtemps après.
Je retourne à une date un peu plus emblématique, le 8 mai, c'était hier. Est-ce que pour vous, c'est une date importante de commémoration, de souvenir ?
Pour moi, la journée la plus importante, c'est les déportés à la fin du mois d'avril. Voilà. Et oui, mais le 8 mai, oui, c'est une date importante, mais moins que les commémorations des déportés, j'ai eu beaucoup de genre de remplacement. C'est comme ça qu'on peut vivre. Ou on pense qu'il va revenir, ça c'est l'enfance, c'est, je sais pas. Et après, ben, on remplace.
Vous parlez volontiers de ce souvenir. Mine de rien, vous avez accepté assez facilement cette interview. D'autres, oui. D'autres familles qui ont une histoire similaire n'osent pas du tout en parler. Pourquoi est-ce important de le faire, selon vous, encore aujourd'hui ? Et ce sera ma dernière question.
Ben, je pense que chaque personne réagit selon, j'allais dire, ses habitudes de pensée et sa personnalité, ses habitudes de pensée. Et dans le chagrin, on a tous du chagrin et on l'exprime de façon entièrement différente.
Merci Dominique Marsay d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1.
Merci.